C'est bon pour toi?
Oui.
Allez, on y va. Énergie Violette, Adeline Courson pour vous accueillir. L'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Namasté, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Énergie Violette. Aujourd'hui, nous allons parler de médecine traditionnelle chinoise, de Feng Shui. Mon invitée est passionnée par ses pratiques holistiques et ancestrales et elle en a fait son métier. Je vous propose d'accueillir Audrey Lebrasseur. Bonjour Audrey.
Bonjour à tous, bonjour Adeline.
Audrey, eh ben, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes praticienne dans le domaine des thérapies holistiques, plus précisément dans le domaine de la médecine chinoise, et vous exercez à Cuneo en périphérie de Toulouse. Vous œuvrez avec de nombreuses techniques et outils que vous nous décrirez dans un instant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Audrey, nos auditeurs aimeraient bien vous connaître. Alors, racontez-nous un peu votre histoire, comment la petite Audrey a grandi et s'est progressivement engagée dans cette voie thérapeutique.
Très bien, merci Adeline, merci de me recevoir aujourd'hui chez Esprit Occitanie. Donc moi j'ai un parcours, je vais dire un peu comme beaucoup finalement, qui sommes dans le métier du bien-être. On est souvent issus d'une reconversion professionnelle. Et c'est mon cas, donc moi j'ai travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années dans le milieu de l'aéronautique. Voilà, étant sur Toulouse, j'ai suivi une voie classique en fait, logique pour moi. Donc j'ai fait des études dans le domaine du management en entreprise. Et puis donc j'ai travaillé dans cette entreprise où j'ai grandi, j'ai évolué, etc. pendant un certain nombre d'années. Chemin faisant sur mon parcours professionnel, j'ai rencontré voilà, un peu de stress, des difficultés, je me suis posé des questions sur ma vie professionnelle et personnelle, parce que pour moi c'est un tout aujourd'hui, et j'ai ressenti l'appel de me rapprocher des médecines, on va dire, complémentaires, de toutes les activités de bien-être, etc. Donc le premier appel, ça a été pour le yoga. J'ai commencé par le yoga suite à des problèmes de douleur au niveau cervical et du dos. Et j'en parle souvent, en fait, c'était très drôle finalement, parce que j'ai passé 2-3 mois à aller à ce cours de yoga, plusieurs fois par semaine, pour soulager mes douleurs de dos et pour apaiser voilà, mon esprit, travailler sur mon ancrage, etc. Et je me disais au début, mais qu'est-ce que je fais là? J'avais beaucoup de mal à rentrer dans le cours de yoga, en me disant, mais c'est trop lent pour moi, parce que j'étais dans un rythme souvent effréné au travail et à courir partout, aussi dans ma vie personnelle. Et je me suis dit, non, mais là, il faut que tu te poses et il faut que tu bénéficies de s'ouvrir justement à tout ça pour trouver vraiment un bien-être intérieur et soulager les maux du corps, etc. Donc ça, c'est ma première expérience avec le bien-être. Mmh. Et puis, j'ai commencé à me poser des questions aussi sur la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, j'avais lu quelques bouquins, il y a des choses qui m'attiraient, dans la philosophie aussi, taoïste. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas aller aux portes ouvertes de l'école, l'école que j'ai fait ensuite. Et là, bah, oui, ça a été vraiment une révélation pour moi. Je trouvais ça passionnant. Voilà, j'ai rencontré des gens différents du milieu dans lequel j'évolue à l'entreprise. Et voilà, vraiment une curiosité au début pour la médecine traditionnelle chinoise. Donc j'ai commencé l'école quelques mois après. Donc c'est une école qui dure 5 années. Donc je me suis engagée au début sur les 3 années en me disant je verrai par la suite. Donc les 3 premières années, j'étais vraiment très curieuse et enthousiaste d'aller en cours parce qu'à chaque fois c'était une richesse qu'on nous transmettait extraordinaire, voilà, qui m'a ouverte sur plein de choses, plein de théories, voilà, qui ne sont pas du tout de notre mode occidental. Donc pour moi ça a été vraiment une marche à franchir. Et je me suis engouffrée dans ces cours qu'on nous donnait, je me suis passionnée pour tout ça. Voilà, donc ça a été vraiment un gros travail parce que je l'ai fait en parallèle de mon activité professionnelle. Donc voilà, beaucoup de charges de travail. Voilà.
C'est courageux. Et mais vous saviez tout de suite que le parcours que ça allait être, la difficulté que ça pouvait représenter en ayant un métier à côté ou...
Alors j'étais consciente qu'effectivement, c'était... Alors, au départ c'était par curiosité que je suis allée à l'école. Donc par curiosité, pour me nourrir de ça en fait. Je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin de me nourrir, d'apprendre. Donc c'était vraiment une ouverture supplémentaire. La charge de travail, on me l'avait dit, mais je ne l'avais pas évaluée à ce point. C'est-à-dire qu'à chaque week-end de cours, on a voilà, des gros pavés, on repart avec ça. Et après, il faut digérer le cours parce que c'est pas du tout dans notre culture. Donc c'est une pensée différente. Donc il faut intégrer non seulement l'apprentissage de ce qu'on nous donne, mais aussi la façon de penser qui est différente. Et là, ça demande effectivement plusieurs années. Donc oui, grosse charge de travail, mais vraiment aucun regret. Parce que quand je vois où ça m'a mené aujourd'hui professionnellement et personnellement, ça m'a vraiment changé, quoi.
En démarrant ces études sur la médecine chinoise, vous étiez déjà en phase avec l'objectif de devenir praticienne thérapeute, ou alors c'était au départ juste par intérêt personnel
Alors au départ, c'était déjà parce que j'avais vu voilà de quelques petits problèmes de santé et je cherchais des façons de pouvoir traiter mes maux en fait, et pas seulement voilà par des traitements peut-être un peu lourds, enfin sur plusieurs mois, etc. Donc l'intérêt c'était celui-là, de comprendre aussi parce que moi j'ai besoin de comprendre les choses. Il y avait ça et donc voilà. Au départ, je me voyais pas praticienne du tout. Mmh. Ça m'intéressait, j'avais soif d'apprendre, et puis j'ai commencé, je me suis dit je verrai. Et bon, l'école étant sur 5 ans, je me disais, bon 5 ans c'est long quand même, surtout quand on le fait en parallèle d'une activité, professionnelle, qu'on a une famille, voilà, c'est pas rien, hein, au quotidien. J'étais soutenue hein, par ma famille, sinon j'aurais jamais pu le faire de toute façon, ça c'est clair. Parce que c'est quand on fait une formation comme ça en reconversion, on implique ben, toute la famille. Mmh. On n'est pas tout seul sur le chemin. Voilà. Et puis c'est quand je vois où ça m'a mené aujourd'hui, c'est finalement drôle parce que moi, quand je devais choisir mon orientation professionnelle l'année du bac, je voulais être infirmière ou architecte d'intérieur. Et on m'a dit mais Audrey, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. En gros, c'est pas possible. Et en fait, j'ai réalisé, quand j'ai commencé la formation en Feng Shui traditionnelle, quand j'étais avec mon maître en Feng Shui, le second jour, je lui ai dit, en fait, j'ai compris. Parce que j'ai compris que finalement, si, il y avait déjà une raison à ça à l'époque, mais je ne la connaissais pas.
Le lien, justement, avec l'envie d'être architecte plus tôt, quoi.
Elle est deux en fait, parce ouais. que quand je réalisais ça, je me suis dit, ben en fait, le côté infirmière, c'était le côté apporter un soin, voilà, être là pour l'autre, et puis le côté être bien chez soi en fait. Et là, je vais par le feng shui. Donc c'est vrai que ce sont deux choses qui, dans notre culture occidentale, n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui ont pris vraiment tout leur sens dans la culture chinoise. Mmh.
Et donc, à l'issue de la formation, comment vous avez vécu la formation? Comment ça s'est transformé, l'intérêt déjà pour ça, et ensuite à envisager un métier avec les compétences acquises et la théorie acquise?
Alors, au fur et à mesure des années, je me retrouvais totalement dans tout ce que j'apprenais. Ça m'a apporté vraiment énormément au niveau personnel aussi. Et voilà, cette soif d'apprendre et d'aller toujours plus loin. Donc les trois premières années, c'est beaucoup de théorie fondamentale, on apprend les grands principes, on apprend aussi voilà, le travail sur les méridiens, etc. La quatrième et la cinquième année, c'est le Twina et la pharmacopée chinoise. Là, ça a été difficile, la transition, parce qu'au bout de la troisième année, quand on a passé trois années à donner beaucoup de son temps, beaucoup d'énergie, à travailler en parallèle de son travail... Son travail de tous les jours, en fait. C'était vraiment une charge supplémentaire, hein, et pas des moindres. Voilà, repartir quatrième et cinquième année et repartir dans un apprentissage différent, parce que je repartais voilà, à étudier les plantes, à étudier ben, là, le corps humain est vraiment dans sa structure, à travailler sur la structure du corps. Donc, c'est encore différent. Et puis, moi, j'étais dans une promotion où, ben, souvent, dans ce genre de formation, il y a des gens qui sont du milieu médical et d'autres pas du tout. Moi, j'étais pas du tout de ce milieu-là. Donc, non seulement, en plus d'apprendre les grands principes chinois, enfin, tout ce qu'elle va apprendre sur la médecine traditionnelle chinoise, on est formé aussi à l'étude du corps humain, en anatomie, la physiologie. Donc, j'ai eu tout cet apprentissage aussi à faire. Voilà, donc
de tronc commun, quelque part.
De tronc commun, voilà.
Que les autres avaient déjà ou moins dans leur bagage.
Pas tous, en général, c'est moitié-moitié environ. Mmh. Donc, effectivement, après, voilà, on le voit sur le cursus, là, sur les 5 années, il y a beaucoup de gens qui abandonnent en cours de route parce que, justement, c'est très lourd. Voilà, mais toujours, voilà, cette soif d'apprendre, d'aller jusqu'au bout aussi, de finir les choses. Parce que je suis quelqu'un, voilà, quand je m'engage, je vais jusqu'au bout. Donc d'aller vraiment au bout des choses. Et puis, voilà, ce désir qui se dessinait d'être praticienne. Ça, c'était, voilà, en fin de troisième année, j'ai commencé à prendre un cabinet, au départ le samedi matin. Et puis j'ai augmenté par demi-journée, par journée, progressivement. Voilà, pour me rassurer aussi et pour voilà, continuer mon chemin sereinement. Voilà, ça c'était pour la médecine traditionnelle chinoise. Et puis après, justement, en travaillant en cabinet, parce que je me suis formée en parallèle de ma formation en médecine traditionnelle chinoise, classique en fait, au Twina pédiatrique. Donc vraiment pour travailler sur les nourrissons et les jeunes enfants. Et je rencontrais voilà, deux petits garçons pour lesquels j'arrivais pas à régler le problème de sommeil, parce que c'est souvent pour cette raison-là que les gens viennent pour les jeunes enfants et les nourrissons. Et je me suis dit, ben là, il manque quelque chose dans ta pratique. Et je me suis dit, ben en fait, si c'est pas l'homme, si c'est pas l'enfant, c'est certainement le lieu. Et j'ai commencé à m'intéresser au feng shui, toujours. Encore cette soif d'apprendre et de découvrir, d'aller toujours plus loin en fait. Donc je me suis intéressée au feng shui. Je voulais être formée par un maître en feng shui traditionnel parce que pour moi vraiment l'apprentissage, la transmission fidèle, voilà, je trouve qu'on garde vraiment l'essence de ce qu'est cette culture. Voilà, de ne pas l'occidentaliser parce qu'on perd vraiment la nature en fait profonde de cet enseignement. Donc j'ai été formée par un maître en feng shui traditionnel, issu d'une grande lignée de maîtres en feng shui, comme école, c'est la Yap Sheng Hai Academy. Donc vraiment, c'est une école qui est très traditionnelle. Et voilà, et en plus, j'ai eu la chance d'être formée au départ à deux et après toute seule en individuel. Donc pour moi, ça a été d'une grande richesse parce que je faisais le lien entre le feng shui, l'habitat et l'homme, puisque j'avais cette formation en médecine traditionnelle chinoise. Et je faisais la relation à chaque fois avec, dans une pièce, par exemple, il y a des poutres là au-dessus de nous. Donc on met jamais une poutre, un lit par exemple, sous une poutre, là où on a la tête. Et je faisais le lien avec un point au sommet du crâne qui s'appelle Bai Hui. Ce point-là, en fait, c'est le point qui fait monter le chi, l'énergie. Donc effectivement, si on pense à cette idée-là, de mettre une poutre au-dessus de la tête, on peut dire que ça écrase le chi, l'énergie, et que donc l'énergie ne peut pas monter, et qu'on peut être fatigué, mal dormir, etc. Donc j'ai commencé à faire des liens entre ces deux pratiques. Donc voilà, passionnant. Et puis après, je me suis dit, j'avais toujours cette image en fait qu'on trouve souvent quand on tape médecine chinoise ou principe voilà, de théorie fondamentale chinoise sur Internet, on voit cet arbre en fait avec l'homme qui représente le tronc, les racines qui représentent la terre, l'ancrage, et puis le ciel avec les branches qui s'élèvent vers le ciel, en fait, vers les cieux. Et puis on nous dit, voilà, quand on apprend, que l'homme est un microcosme dans un macrocosme. Et j'avais toujours cette image-là, en fait, et de me dire, ben, en fait, pour l'homme, c'est la médecine traditionnelle chinoise, toujours évidemment entre ciel et terre, parce que c'est jamais coupé, en fait, tout est énergie, tout est lié. Le feng shui, c'est la terre, c'est le lieu. Et je me disais, ben, le ciel, je ne le traite pas, il existe. Une troisième corde, en fait, qui est le Batsu. Le Batsu, c'est l'astrologie chinoise. Et c'est pas... Alors, ça n'est pas que... Souvent, on dit astrologie, on pense signe astrologique, nous, dans notre culture. Vraiment, l'astrologie chinoise, le Batsu, c'est... Donc ça s'écrit BASI, B-A espace Z-I. C'est en fait le chemin de vie d'une personne. On va étudier vraiment le chemin de vie. Et là, ça m'a ouvert vraiment à une dimension supplémentaire qui pour moi a été vraiment très très riche, vraiment extraordinaire, de prendre en considération l'homme dans son environnement, donc entre la terre avec le feng shui et le ciel qui est le padze, et de comprendre voilà, pourquoi l'homme a tel mot, pourquoi cet habitat est bon pour lui ou pas, et quel est son chemin de vie, pourquoi il est là aujourd'hui, par quoi il est passé, par quoi il va passer, autant personnellement que professionnellement. Et quand on prend les trois dimensions, comme je dis souvent, c'est très riche, très très riche.
Donc là, vous avez bien complété avec la trinité entre le feng shui, l'homme entre ciel et terre, et puis le ciel avec l'astrologie chinoise. Peut-être qu'il serait intéressant de revenir sur les définitions pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien la médecine chinoise, le feng shui ou même le patse. Voilà, est-ce qu'on peut détailler un petit peu, parce que bon, il y a les définitions du dictionnaire, mais là on est à la radio. Oui. Et puis vous avez peut-être une définition un peu plus personnelle à donner, Audrey.
Alors, ce qui regroupe tout ça, on va dire, c'est le qi. C'est vraiment l'énergie, donc l'énergie vitale, l'énergie qui circule là dans la pièce entre nous. C'est vraiment le souffle, en fait, on va parler de souffle. On va imaginer le chi, l'énergie, comme un fluide. Soit dans le corps, soit dans la pièce, etc. Donc c'est vraiment la circulation de l'énergie. Ça c'est un principe qui est très important, parce que la circulation de l'énergie, c'est la base en fait. Que ce soit dans le corps lui-même, ou dans l'énergie qui circule ou qui ne circule pas dans un endroit, dans une pièce, donc on va travailler sur ça en feng shui. Donc la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine ancestrale en fait, qui date de plus de 3000 ans, qui est basée sur l'observation de la nature et qui est, on va dire, cadencée sur les saisons. Donc à chaque saison correspond un organe, une entraille, avec des problématiques particulières qu'on va prendre en compte. Et quand les gens viennent nous consulter, en fait, il est conseillé, puisque c'est une médecine avant tout préventive, de travailler à chaque changement de saison pour justement identifier des déséquilibres et pouvoir harmoniser le corps, l'esprit, avant que ça s'ancre et que ce soit après des pathologies peut-être plus lourdes à défaire. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc la médecine traditionnelle chinoise, il y a 5 piliers en fait. Donc on va avoir l'acupuncture traditionnelle chinoise, le twina. Donc le twina, c'est du massage et de la mobilisation ostéo-articulaire. Donc on va vraiment travailler sur la structure du corps, sur les tissus, sur les blocages voilà, qui peut y avoir au niveau musculaire. Chez la femme par exemple, moi je reçois beaucoup de femmes en cabinet, je vais systématiquement travailler sur le bassin, parce que chez les femmes, voilà, notamment quand on a eu des enfants, on a tendance, voilà, on porte souvent les petits, les mamans en postpartum portent les enfants, donc on se déplace souvent voilà, au niveau du bassin, donc je vais travailler sur ça. Ensuite il y a le qigong thérapeutique. Donc le qigong thérapeutique, c'est vraiment une écoute profonde du corps avec ses mains. On va travailler vraiment le qi, donc l'énergie sur le corps. La pharmacopée chinoise. Donc la pharmacopée, ce sont les plantes et les minéraux. Donc il y a des formules de plantes qu'on va utiliser en fonction de telle ou telle problématique, de tel ou tel syndrome.
Sous quelle forme? Plutôt huile essentielle ou...
Alors en médecine chinoise, la pharmacopée, ce sont des plantes sous forme soit de poudre, soit de gélules, soit de comprimés.
D'accord.
Voilà, ça peu importe, en fonction de la faisabilité aussi pour la personne qui vient nous consulter. Il y a les poudres, c'est vrai que souvent c'est pas très bon à avaler. Beaucoup les gens préfèrent les gélules ou les comprimés. Voilà. Après, la poudre agit en général beaucoup plus vite, donc ça va dépendre aussi de ce qu'on veut travailler, de l'urgence, du degré d'urgence. Voilà. Et ensuite, la diététique chinoise. Ou en fonction d'une problématique, on va donner des conseils sur l'alimentation, des choses à privilégier ou à éviter. Est-ce que j'ai cité les 5? Je ne sais plus.
C'est pas grave, on y reviendra tout à l'heure, sinon. Voilà, donc merci déjà pour ces éclaircissements, c'est super intéressant, on y reviendra tout à l'heure. On va peut-être marquer une petite pause, alors je vous ai demandé de choisir un morceau de musique. Qu'est-ce que vous nous proposez, Audrey ?
Alors j'ai choisi une chanson qui tourne en boucle en ce moment dans ma tête.
Ouais.
J'ai souvent des chansons voilà, qui tournent, mais là en ce moment c'est celle-là, c'est La Tendresse de Bourvil, chanson un peu désuète. Mais qui me ramène à quelque chose d'essentiel qu'on a peut-être perdu un peu avec ce qu'on a vécu là récemment, on va dire ces dernières années, et qui pour moi est essentiel, qui est la tendresse, donc l'attention portée à l'autre par des choses simples. Voilà, donc j'avais envie de partager cette chanson-là avec vous aujourd'hui.
Eh ben c'est super. Allez, on la lance.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 long. Le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
Nous sommes toujours sur Énergie Violette, l'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Nous retrouvons Audrey Lebrasseur, notre invitée pour cette seconde partie d'émission. Audrey, vous exercez en tant que praticienne en énergétique traditionnelle chinoise et Feng Shui. Alors, cela consiste notamment à accompagner des personnes dans la recherche de leur bien-être, mais également chez eux. Concernant l'accompagnement des personnes, moi j'aimerais savoir un petit peu quel service, quel type de séance vous proposez aux gens qui vous appellent, qui ont envie de bénéficier de votre domaine de compétences.
Alors, en médecine traditionnelle chinoise, j'ai tout type de personnes qui viennent me voir. Il y a des personnes qui sont conscientes que c'est une médecine préventive, donc qui ont une certaine culture en fait par rapport à cette pratique et qui vont venir avec la conscience de travailler au rythme des saisons, comme je le disais tout à l'heure. Et puis après, y a aussi des personnes qui vont venir parce qu'elles ont essayé plein de choses avant, elles n'ont pas trouvé de solution à leur problématique, et elles arrivent donc avec souvent des pathologies qui sont installées depuis un certain temps. Mmh. Donc voilà, le travail va être différent par rapport à ça déjà. Donc ensuite, en médecine traditionnelle chinoise, moi je reçois beaucoup de femmes, je travaille beaucoup sur le féminin. Que ce soit des problématiques de cycle menstruel, de ménopause, des problèmes de fertilité. Je fais aussi de l'accompagnement en PMA. Donc là, on se cale sur le processus qui est enclenché par rapport au processus PMA. J'ai aussi des enfants, des jeunes ados. Voilà, ça va de 2 mois à 98 ans, mon plus vieux patient. Voilà, donc vraiment, j'ai tous les profils, mais beaucoup de femmes, beaucoup de mères aussi, parce que j'ai vraiment une affection particulière pour l'accompagnement de la future maman, de la jeune maman en postpartum, parce que c'est le moment de la vie où on est en plein bouleversement physique et émotionnel, où la place de chacun dans la famille est justement, on va dire, perturbée, doit s'adapter, etc. Ouais. Et pour les mamans, c'est une grosse charge mentale, émotionnelle. Pour les papas aussi, qu'ils ont souvent oublié d'ailleurs. Pour les papas aussi, voilà, une affection vraiment particulière pour l'accompagnement des femmes et des mères. Mmh. Après, j'ai des personnes aussi qui viennent pour les problématiques de mal de dos, arrêt du tabac. Voilà, je vais avoir plusieurs problématiques assez diverses et différentes. J'accueille à chaque fois avec beaucoup de curiosité chaque personne qui vient à moi, parce que je me dis que si elle vient à moi, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui l'a attiré ou qui fait que cette rencontre se fait. Voilà, beaucoup d'ouverture et de bienveillance de ma part, c'est important. J'essaie d'être au plus à l'écoute. L'écoute, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, et j'ai découvert justement par mon parcours que l'écoute, c'est pas seulement l'écoute de ce qu'on peut se dire, il y a aussi l'écoute des non-dits, voilà, l'écoute du langage du corps. Après c'est pareil, quand on passe à la partie soin, il y a vraiment aussi le toucher, la perception. La médecine traditionnelle chinoise, en fait, quand on commence une séance, on va réaliser ce qu'on appelle le bagang, donc c'est le bilan énergétique. Donc, dès que la personne va entrer dans le bureau, il va y avoir déjà l'observation, la couleur du teint, le regard, voilà, la façon d'elle va se tenir, la façon dont elle va marcher. Ça va m'aider notamment en Twina, après, si j'ai besoin de travailler sur la structure du corps. Après, il va y avoir le questionnement avec elle. On va remonter depuis l'enfance, quels ont été les problèmes de santé qu'elle a pu rencontrer. Est-ce qu'il y a eu des opérations, des accidents de la route, des chocs, voilà, des problèmes de santé à répétition, des problèmes lourds. Des fois, des choses qui vont paraître anodines pour certaines personnes, et pour moi, ça va énormément me parler, en fait, parce qu'en termes de syndrome, ça va correspondre à certaines choses. Donc, il y a vraiment un entretien qui se fait beaucoup dans l'écoute, donc dans l'écoute de ce qui est dit, de ce qui est non dit aussi. Voilà, donc déjà, je reçois dans mon cabinet... C'est un cabinet que j'ai aménagé d'une façon très cocooning et qui me ressemble.
Oui, j'ai vu ça. J'ai eu le grand plaisir de participer à un de vos ateliers. On en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, le cabinet est très zen et très... Il donne envie d'y rester et d'être bien, tout simplement.
Merci pour ce partage, Adeline. Donc moi, c'est un cabinet que j'ai aménagé évidemment avec le Feng Shui. Donc je peux vous parler, si vous voulez, 2 minutes de savoir comment fonctionne le Feng Shui.
Ah oui, tout à fait, ouais. On sait jamais, parce que quand on prend un nouvel appartement, ou même des fois chez soi, on comprend pas pourquoi. Quelque part, on sait si on se sent bien ou si on se sent pas bien, et donc il y a peut-être des changements à faire, mais on sait pas les faire. Donc, je vous laisse nous expliquer le Feng Shui.
Alors, le Feng Shui, en fait, souvent les gens pense le feng shui comme de la décoration. Donc déjà, le feng shui n'est pas de la décoration, ou pas que. Enfin, on va appeler décoration parce qu'on va utiliser des couleurs, des formes, etc. Dans ce sens-là, oui. Mais le feng shui, c'est du bien-être, en fait. Donc, pour quand on réalise une étude en feng shui, on va prendre en considération chaque habitant, chaque personne qui vit dans le lieu. Donc si c'est une famille de 5 personnes, on va calculer ce qu'on appelle le chiffre kwa ou le chiffre mingwa, qui va nous donner un profil, en fait, un profil énergétique de la personne. Donc quand on travaille sur un lieu, donc je disais par exemple une maison de 5 habitants, on va prendre ces 5 personnes et on va établir le profil énergétique de ces 5 personnes. Ensuite, on va regarder aussi le lieu, l'extérieur, tout l'environnement extérieur. On va regarder aussi après l'intérieur. Donc il y a des grands principes qui sont valables pour nous tous en fait, des choses à éviter ou à privilégier. Et après, en fonction de chaque habitant, on va regarder les secteurs, les directions qui sont bonnes ou mauvaises pour chaque personne. Et une fois qu'on a établi tout ça, on va trouver ce qui est le mieux pour tous. On va pas prendre, par exemple, une orientation pour un couple, de placer une chambre ou la tête de lit à un endroit qui est très bonne, par exemple, pour l'homme et pas du tout bonne pour la femme. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est complexe, et en plus dans le feng shui, on ne le sait pas souvent, il y a une notion de temporalité aussi. Il y a des dates qui sont favorables et d'autres qui sont défavorables. Donc on va aussi prendre en considération cet élément-là. Voilà en gros pour le feng shui.
Et alors, quelles seraient les principales choses à éviter?
Tout ce qu'il y a à éviter.
Dans l'aménagement intérieur.
Alors déjà, il faut faire attention aux arêtes. Aux arêtes des murs. Si vous avez un mur, par exemple, comme là, nous, on a une fenêtre, en fait, qui est en renfoncement par rapport à la façade. Donc, on a deux arêtes de chaque côté. On va éviter de se placer face à une arête. Une arête, c'est comme si elle venait vous attaquer, en fait. Voilà. Donc là, on va éviter. On va utiliser plutôt des formes arrondies. En tout cas, on va éviter de se mettre face à des éléments, on va dire, tranchants ou qui peuvent... comme s'ils venaient vous percuter, en fait. Donc ça, on va éviter, on va faire attention aux poutres, comme j'ai dit tout à l'heure, on va éviter de se mettre sous une poutre. Voilà, donc ça, c'est des grands principes qui sont valables pour tout le monde.
Et des choses qui seraient plus favorables, je ne sais pas, par exemple, on va prendre l'aménagement d'un salon.
Alors, favorable. Alors, favorable, ça va dépendre de votre mingwa, en fait.
La télé, par exemple, est-ce qu'il y a un endroit spécifique où il faut la placer? Non. C'est vraiment en fonction de l'énergie des personnes.
Oui, on va vraiment tenir compte de la feng shui traditionnelle, hein, parce que je parle vraiment de feng shui traditionnelle. Ouais. On va vraiment tenir compte de la place et de l'orientation, dans quelle direction vous allez vous asseoir, par exemple, de la personne. Moi, je fais pas mal d'ateliers là sur le télétravail. Qui s'est beaucoup développé pendant le confinement. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Je me retrouve à travailler à la maison et je ne suis pas bien, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et des fois, il suffit simplement de tourner le bureau, de le mettre dans une disposition, d'éviter justement les poutres, les arêtes, etc. pour que la personne, déjà, se sente mieux dans le lieu.
Oui, c'est vrai, c'est super intéressant. On n'y pense pas, mais... C'est vrai, quand on travaille en dehors de chez soi, ben, on a bien sûr un petit bureau chez soi, mais qu'on laisse plutôt dans un coin et qui sert un petit peu de fourre-tout. Mais quand on doit l'utiliser vraiment pour travailler, là, le bureau prend une toute autre importance, puisqu'il faut être complètement à l'aise dans cette situation et ce contexte. Quoi.
Exactement. Alors après, souvent, les gens... consultent pour le feng shui, c'est soit qui connaissent déjà en fait, soit parce que souvent c'est une problématique de sommeil en fait, des gens qui disent qu'ils dorment très mal et qui savent pas pourquoi. Donc on va c'est souvent les consultations en feng shui, c'est souvent pour la chambre, pour le bureau ou les thérapeutes pour l'aménagement de cabinet.
D'accord. Et parfois des gens peuvent venir aussi avant, je dirais, de construire une maison ou avant de se décider pour un appartement.
Oui, alors ça c'est important d'en parler justement parce que quand il y a un projet de construction ou l'achat d'un appartement, autant choisir une orientation qui est la plus favorable possible. Et notamment en feng shui, quand on va établir l'étude, tout va partir de la direction de la porte d'entrée. Donc on va regarder évidemment les éléments extérieurs, hein, les routes, les fleuves, etc., les montagnes et tout ça. Mais on va prendre la première chose qu'on va faire, on va prendre avec le liopan qui est la boussole chinoise. de Feng Shui, on va prendre la direction de la porte d'entrée et on va quadriller tout le plan de la maison à partir de cette direction. Donc c'est l'élément de base. Donc effectivement, dans une construction, c'est très important de calculer son chiffre Mingwa, de calculer celui de toutes les personnes qui vont habiter le lieu et de choisir une orientation de la porte d'entrée qui va être favorable. Et après, on va définir les secteurs, les pièces, on peut définir les chambres pour chacun, etc. Ou placer la cuisine et la salle de bain. Cuisine et salle de bain qui doivent être dans des endroits qui ne sont pas bons pour vous, en fait. Parce que ça va éliminer ce côté négatif. On va le mettre dans un endroit qui n'est pas bon pour vous, donc ça va éliminer le négatif. C'est cet esprit-là, en fait. Voilà.
Intéressant. Pour en revenir à la médecine chinoise, moi, j'aimerais savoir... si cette thérapie permet d'identifier ou de connaître systématiquement les causes des maladies ou des problèmes.
Alors justement, ça c'est hyper intéressant, Adeline, merci de le rappeler. Je ne pensais pas du tout à en parler alors que c'est vraiment très 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 important. Si je vous donne l'exemple de migraines, en fait, de maux de tête. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour des migraines. Donc c'est en général, difficilement supportable parce que ça dure quand les gens viennent. C'est vraiment des migraines qui durent depuis un certain moment. Ces personnes prennent un traitement en fait, qui va stopper le mal de tête. Donc, elles ne vont plus avoir mal de tête pendant un certain temps. Quand ça va revenir, elles vont reprendre. Mais ça ne va pas enrayer la cause profonde du déséquilibre, en fait. Et nous, en médecine traditionnelle chinoise, on va aller chercher la cause profonde du déséquilibre pour éviter justement qu'il y ait des récidives et que des problématiques reviennent et s'installent. Donc ça, c'est vraiment un élément hyper, hyper important.
Oui, de travailler sur les causes.
On a tous un terrain.
Bien sûr. Ouais.
On a toujours tous un terrain avec des choses favorables, défavorables, et on va vraiment travailler sur ça et sur la cause profonde du déséquilibre, d'où l'intérêt de venir à chaque changement de saison pour justement réajuster en fonction de la saison et de l'état énergétique dans lequel on est, les organes en travail qui ont besoin d'être rééquilibrés. Retrouver un corps harmonieux et en bonne santé physique, on va dire, et de l'esprit.
Et en harmonie, oui. Alors, par rapport aux séances, on en a un petit peu parlé, mais peut-être plus précisément, une personne qui vient vous trouver pour... on va dire peut-être une migraine, puisqu'on en a donné l'exemple. Donc, vous la recevez à votre cabinet. Vous ne faites pas de consultation à distance du tout ?
Non, du tout. J'ai besoin de voir, de toucher la personne, ou du moins de la percevoir. Voilà, ça c'est sûr. Et puis notamment, parce que c'est vrai que je suis passée au Feng Shui, on n'a pas fini sur le Bagang et sur le bilan énergétique, effectivement. Donc, il y a cet échange avec la personne, il y a l'observation comme je disais tout à l'heure, et puis après il y a la prise de pouls. Donc on va prendre au niveau des poignets les pouls de la personne, donc sur les deux poignets, ça va nous donner un état des organes en trail, donc des choses qui sont en vide, d'autres en plénitude, et on va harmoniser en fait. Et on va observer aussi la langue. La langue nous donne énormément d'informations en médecine traditionnelle chinoise. On va regarder la couleur de la langue, la grosseur de la langue, l'épaisseur, la largeur. Si on a une langue qui est indentée, c'est-à-dire qu'il y a les traces des dents en fait sur la langue, sur les bords. De quelle couleur est la langue à certains endroits. On va regarder l'enduit, on va regarder les veines qui sont sous la langue. On va regarder tout ça et ça va nous donner une mine d'informations. Et on va compléter ça par le questionnement après, en fonction de ce qu'on peut observer.
Et c'est quand même assez atypique de regarder précisément la langue, mais quand on y pense plusieurs dizaines d'années en arrière, c'est vrai que les médecins généralistes regardaient aussi la langue souvent. Mais là, c'est quand même beaucoup plus profond, puisqu'il y a beaucoup plus de choses à déceler avec cette observation. Et donc après, on passe à...
Alors après, on passe à la partie soin.
Ouais.
Donc dans mon cabinet, j'ai deux espaces, justement un bureau et un soin, où là, on va retrouver déjà une lumière tamisée. Je porte beaucoup d'attention justement à la façon dont j'accueille les gens pour qu'ils se sentent bien. J'utilise enfin, vraiment des choses, on va dire, simples, mais qui pour moi ont toute leur importance. C'est-à-dire que je vais utiliser des matières naturelles, je recouvre la personne avec un voile de soie, de soie naturelle, de soie chinoise, vraiment, voilà, pour être dans la tradition encore. La soie prend la température du corps. Donc ça, c'est très, en général très agréable déjà au toucher. Et puis quand on est allongé, voilà, il y a un matelas chauffant. Voilà, après, bon, voilà, je fais brûler l'encens. Ça, c'est vraiment l'environnement en fait, dans lequel je reçois les gens.
Ça fait partie, bien sûr, du soin aussi. Hein.
Voilà, et puis après, donc, je vais commencer par réaliser une palpation de tout le corps, en fait, donc avec mes mains. Je vais toucher le corps, je vais ressentir s'il y a des zones froides, des zones qui sont plus chaudes, si le corps, voilà, si l'énergie, si ça me donne des indications sur la circulation de l'énergie dans le corps. Je vais toucher s'il y a des tensions, s'il y a des douleurs. Voilà, donc ça, c'est vraiment la palpation, c'est vraiment un complément du bilan qu'on aura fait avant. Ça fait partie vraiment du bilan. Et puis après, on va réaliser la séance. Je reste avec les personnes, ça c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. C'est un choix en fait, hein. Il y a des praticiens qui ont plusieurs pièces, plusieurs, on va dire, box, qui vont prendre plusieurs personnes. Moi, je reste avec la personne du début où elle entre dans le cabinet jusqu'au moment où elle ressort. Donc mes consultations durent une heure et quart, voire une heure et demie des fois. Donc je reste avec la personne. Je réalise pendant voilà, que le travail se fait souvent un massage crânien pour aider à la détente et que le corps vraiment puisse se relâcher pour ressentir au mieux les effets. Et après, quand on a terminé le soin, on revient au bureau et là, j'explique aux personnes un petit peu ce que j'ai travaillé. Alors des gens qui sont plus ou moins curieux justement dans les explications. Donc je prends le temps d'expliquer parce que moi j'aime comprendre déjà moi personnellement, donc j'ai plutôt à cœur d'expliquer, voilà, je me mets à la place de l'autre. Et puis comme des fois ça fait beaucoup d'informations, je dis toujours aux gens ne vous inquiétez pas, quand vous repartez je vous envoie un mail avec les informations que je vous ai transmises. Donc ça peut être des étirements, en ce moment il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de cervicales, de douleurs dans les épaules, etc. Donc j'envoie des étirements à réaliser à la maison, des conseils sur l'alimentation, comme je disais tout à l'heure, des choses à privilégier, à éviter, des conseils d'hygiène de vie. Quelqu'un qui va être hyper tendu, je vais lui conseiller, pourquoi pas, dans son quotidien, de rajouter quelques minutes de méditation, d'aller faire du yoga, voilà, des choses qui peuvent l'aider au quotidien. Parce qu'en fait, moi, je suis, je plante des petites graines, je donne des choses. Et ce qui me fait plaisir après vraiment, c'est quand les gens me disent, ça m'est arrivé dernièrement avec une femme que j'ai accompagnée qui avait un cancer du sein. Elle est venue me voir pour les effets indésirables des traitements en fait, parce que alors ça c'est quelque chose qui est important pour moi aussi d'apporter. Moi c'est une médecine complémentaire et pas une médecine alternative, parce que pour moi il n'y a pas d'alternative à notre médecine, c'est vraiment un complément. Donc j'en parlais peut-être tout à l'heure, je travaille avec des professionnels de santé. Et cette femme, en fait, elle est arrivée à la fin de son traitement et je lui ai dit je suis super heureuse pour toi. Voilà, je lui ai mis un petit mot et puis elle m'a répondu je t'ai abandonnée depuis quelque temps. Et je lui ai dit mais pour moi, c'est bon signe, c'est que tu n'as plus besoin de moi, en fait. Voilà. Et je lui avais donné tout au long de son parcours des points d'acupression, d'automassage qu'elle pouvait utiliser pour soulager ses nausées, pour l'aider à dormir. Et voilà, pour moi, c'est une richesse extraordinaire de pouvoir partager ça. Voilà, c'est un beau retour sur le travail qu'on peut faire en équipe, en fait, avec la personne qui vient nous voir. C'est vraiment un travail à deux.
Et puis d'apprendre que la personne peut maintenant être autonome avec les outils que vous lui avez donnés.
Alors ça, c'est important pour moi, en fait. C'est pas dans notre culture, dès tout petit, en fait, on nous apprend pas à écouter notre corps, à toucher notre corps. Ça revient, les massages, le portage reviennent maintenant à la mode, on va dire. Et c'est super parce que nous, enfin moi je sais que petite, j'ai pas eu ce toucher-là, des massages, de la respiration, etc. On nous apprenait pas ça. Et pour moi, c'est essentiel de faire prendre vraiment conscience aux enfants et aux parents que j'ai une émotion qui est douloureuse. Qu'est-ce que ça fait si je mets les mains sur mon ventre, si je masse, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable, est-ce que ça fait disparaître cette émotion ou pas? où j'ai mal au ventre, est-ce que ça fait disparaître la douleur quand je masse ou est-ce qu'au contraire ça l'accentue? Donc ça, c'est vraiment des outils qu'on peut donner aux enfants tout petits, même à nous, hein, les grands, et qui sont essentiels dans le rapport qu'on peut avoir à notre propre corps. Voilà, c'est, pour moi, c'est d'une grande richesse de donner ça aux enfants dès tout petits.
Très bien. Je crois que tout à l'heure, je vous ai coupé, vous vouliez décrire autre chose après le feng shui. Vous avez dit, je vais parler de ça, et ça, j'ai oublié.
Qu'est-ce que c'était ?
On y reviendra. Voilà, on a donné aussi des exemples de personnes qui voulaient vous voir. Par rapport au nombre de séances, alors moi, je voudrais savoir un petit peu, est-ce qu'on doit de suite savoir qu'on va s'engager sur plusieurs séances, ou est-ce que des fois, une seule séance peut suffire ? Est-ce que c'est vous qui déterminez le nombre de séances, ou est-ce que c'est le corps de la personne qui va le définir ?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est une question qui revient assez souvent quand les gens prennent rendez-vous pour nos problématiques. Il y a des personnes qui posent la question de « il faudra combien de séances ?» C'est une question à laquelle je ne sais jamais répondre. Parce que tout va dépendre de chacun, en fait. Chaque personne est différente, et c'est en ça que c'est intéressant, justement, parce qu'on va s'adapter à la personne, à sa façon de réagir après la séance, à la façon dont elle va mettre en œuvre aussi tous les conseils qu'on va lui donner. Ça, c'est essentiel également. C'est pour ça que je parlais de travail d'équipe tout à l'heure, vraiment, avec la personne qui vient nous consulter. Donc, déjà, si on se base sur le rythme des saisons, 4 saisons par an, l'idéal, c'est de venir voir son praticien 4 fois par an au changement de saison. Donc ça, c'est la base. Après, quand on vient nous voir pour une problématique particulière, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps, on peut supposer qu'au moins 3 séances seront nécessaires. Moi, je dis souvent, voilà, c'est la réponse que je peux donner, je pense que c'est la meilleure des réponses pour une problématique en particulier. C'est-à-dire que la première séance, on va s'apprivoiser, je vais faire le bilan, je vais regarder ce qui est à travailler. Donc en général, les gens viennent pour une chose, je ne vais pas traiter que la chose pour laquelle ils viennent. Je vais tout traiter en fait, corps et esprit, je vais faire le bilan de tout. Donc première séance, je vais travailler ça, ce qui me paraît le plus urgent. Et des fois, par exemple, une personne va venir, ça m'est arrivé, une personne qui est venue pour perdre du poids. Cette personne, elle est venue pour perdre du poids, mais il y avait tout un passif. Au niveau psychologique, c'était une histoire un peu compliquée. Donc là, effectivement, je sais très bien qu'il ne faudra pas qu'une séance, parce que j'ai plusieurs choses à travailler.
Ouais.
Donc déjà, la première séance, on va faire le bilan. La seconde séance, ça va me permettre de voir comment la personne a réagi en fonction des conseils que je lui ai donnés. Déjà, s'il a suivi les conseils ou pas, s'il a pu les suivre ou pas, parce que des fois, ce n'est pas forcément évident aussi. Même si ce sont des conseils simples, ce n'est pas forcément évident de les mettre en œuvre dans son quotidien. Et là, je vais réajuster. Et la troisième séance, je vais vérifier si tout est OK. Si c'est OK, on arrête là. Si c'est pas OK, je donnerai un rendez-vous supplémentaire, ou deux, ou trois. Et on va avancer pas à pas en fonction de où on en est à chaque fois, en fait. Après, voilà, j'ai l'exemple d'un monsieur qui était venu parce qu'il voulait arrêter de fumer, qui croyait pas du tout à cette pratique, hein, qui est venu parce qu'il avait été poussé par sa famille.
Des fois, ça arrive.
Voilà.
Comme ça.
Mmh. Et puis voilà, monsieur, un gros fumeur depuis des années et des années. Et donc, il arrive en me disant ça. Et là, je me dis, bon, mais certainement, il va falloir pas mal de séances, quoi. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis, probablement, il faudra plusieurs séances. Donc on termine la séance. Donc déjà, il a ressenti un grand bien-être, de se détendre, parce que le monsieur était hyper tendu. Et je lui donne le prochain rendez-vous. La veille du prochain rendez-vous, il l'annule. Période de Covid, doit s'occuper de ses parents, etc. Donc il annule le rendez-vous. Et là, je me dis, bon, il y a ça, mais très certainement, ce monsieur que je ne reverrai plus, parce que ça n'a pas dû fonctionner en une séance. Et puis, j'ai sa belle-fille qui vient quelques mois après. Je lui dis, alors, votre beau-père, j'ai pas eu de retour, etc. Elle me dit, mais c'est bon, il a arrêté de fumer.
Waouh.
Et donc, en une séance. Donc, ça peut tout être.
Oui,
vraiment, voilà.
De là où en est la personne aussi. En tout cas, belle réussite. Oui. Alors, on va marquer une autre petite pause et moi, je vous propose d'écouter Mirror de Madison Ryan Ward.
You took my heart and gave it a home. We made it through the aching parts. And I gave you my soul. Oh, we tried to kill the pain, oh, and heal these scars. But now love has had its say, and we're moving apart. Chasing time, gotta find peace of mind and understand that maybe we never can. Keep me in your mirror, but don't take your eyes off the road. Holding on won't get us any. We got a long way to go. Sometimes it's hard to see that some things just won't be. Now we both know, but we act so unaware. It just goes to show. Isn't fair. Tomorrow's never promised. Only yesterday is a guarantee. And if I'm being honest, yeah, baby, that's the only thing that carries me. Gotta find peace of mind and understand that maybe we never can.
Vous êtes toujours sur Énergie Violette, l'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques avec Audrey Le Brassard. Audrey, vous accompagnez des personnes avec passion, notamment grâce à la maîtrise de la médecine chinoise traditionnelle, mais vous organisez également des stages, des ateliers, des conférences et vous travaillez aussi avec du personnel de santé. Alors, on commence par quoi, Audrey ? Les stages, les ateliers, les conférences ? Expliquez-nous un petit peu.
Alors, moi je suis une curieuse de nature et j'adore apprendre, j'adore échanger, partager, m'ouvrir à plein de choses en fait. Donc je fais souvent, régulièrement, des échanges déjà avec d'autres praticiens pour m'ouvrir à d'autres techniques, parce qu'en plus c'est tellement riche que souvent ça me donne des idées aussi pour moi dans ma pratique, ça va m'ouvrir vers d'autres choses. Donc c'est très riche et voilà, c'est toujours ce besoin de me nourrir. Donc après, à l'inverse, en complément, j'aime aussi transmettre et partager. C'est pour moi une nécessité, vraiment, j'ai vraiment le goût de ça. D'où le fait que je suis en perpétuelle création d'ateliers, etc. J'ai tout le temps de nouvelles choses qui viennent à moi, des nouveaux thèmes. Bien sûr, même si j'en ai de prédilection, on va dire. Donc j'organise des stages de méditation notamment, donc soit au cabinet, soit en entreprise. J'ai créé aussi récemment un partenariat avec l'enseigne Nature et Découverte.
Wow.
Voilà, donc pour proposer des ateliers ou des conférences, dans le but voilà, de partager avec des personnes qui seraient éventuellement pas peut-être venues me voir. Donc cette richesse-là aussi, de rencontrer des personnes différentes, qui des fois ne se sont pas posées la question sur telle ou telle pratique. Finalement, c'est la pratique qui va à eux. Donc je trouve ça intéressant.
Donc en fait, si je comprends bien, c'est des personnes qui vont faire leurs courses chez Nature et Découverte. Et vous avez proposé, affiché peut-être, ou laissé des cartes, ou des choses comme ça. Et, ou alors, c'est carrément le magasin qui essaye de faire la promotion de vos stages. Comment ça se passe ?
Alors, en fait, dans ce partenariat-là, donc il y a vraiment un accord de partenariat. Vraiment, c'est un vrai partenariat. C'est-à-dire que je vais proposer des ateliers ou des conférences, soit au magasin, soit au cabinet. En partenariat avec cette enseigne, les gens s'inscrivent auprès du magasin. Donc, d'accord. Si vous allez dans les magasins Nature et Découverte de Toulouse, vous voyez des affiches de mes stages et conférences qui sont programmées là pour le mois de mai. Donc, il y a un atelier qui s'appelle Restez zen, découverte de la méditation. Donc, voilà, où j'explique ce que la méditation, quels sont les bienfaits qui pouvaient être amenés et pour ouvrir. Pas sur le stage après que je propose de 5 séances que je donne aussi à l'entreprise. Et après, il y a aussi un atelier qui s'appelle l'art du bien-être chez soi. Donc là, ça va être vraiment avec la découverte du feng shui. Qu'est-ce que le feng shui, les grands principes. Donc toujours en s'inscrivant sur le site Nature et Découverte ou dans les magasins Nature et Découverte de Toulouse. Donc il y en a 3, Centre-Ville, La Beige et Blagnac. Voilà, après je vais faire aussi une conférence au mois de juin au magasin Théora à Portée-sur-Garonne. C'est un magasin vraiment très riche, c'est énorme tout ce qu'on peut trouver. Moi, il y a des ouvrages en feng shui que je ne trouve pas ailleurs.
C'est un magasin qui vend quoi ? Parce qu'on ne le connaît pas tous.
Oui, alors c'est un magasin qui vend beaucoup de choses. Alors vous allez trouver tout un rayon de livres, en fait, de librairie. Il y a un très grand rayon aussi de pierres, il y a des carillons feng shui, il y a des gongs, il y a des bols tibétains.
Donc plutôt un magasin ésotérique.
Ésotérique, ouais. Oui. Vous avez énormément d'oracles aussi, beaucoup de choix en oracle, des pendules. Les vendeuses sont toutes formées dans une pratique, on va dire, holistique. Donc elles sont à même de vous apporter vraiment de très bons conseils sur les produits qui sont mis en rayon. Et quand elles mettent en rayon, elles mettent en intention, en fait. Très joli. Donc vraiment voilà, dans ce désir toujours de partager, d'échanger, parce que en donnant aussi je me nourris énormément de ce que je reçois, des rencontres aussi qui se font. Donc pour moi voilà, il y a vraiment un intérêt à partager. Après je suis aussi formatrice enregistrée auprès de la DRITS. Donc j'ai un numéro de formatrice et j'ai créé une formation il y a quelques mois qui s'appelle Habiter ses soins. En tant que praticienne en médecine chinoise, j'ai vu les effets du feng shui, en fait, d'aménager vraiment son cabinet avec le feng shui et d'être vraiment à la bonne place, au bon moment, voilà, d'être vraiment centrée dans ses soins et ancrée dans ses soins et donc de transmettre le meilleur à la personne qu'on a en soin. Et je trouvais hyper intéressant de partager ça avec d'autres praticiens, d'autres thérapeutes, pour aménager le cabinet avec le feng shui. Donc c'est ce que je transmets dans cette formation de 2 jours. Et à la prochaine session, je ne l'ai pas encore ouverte, mais ça va être pour le mois de juin. J'ai déjà des personnes qui m'ont contacté. Donc voilà, après d'autres choses peut-être à venir, j'ai toujours d'autres idées. Et après j'ai un duo, avec justement pour faire le lien avec les professionnels de santé avec lesquels je travaille. J'ai un duo avec Farida Guérard, qui est médecin sexologue, et éducatrice à la sexualité, que j'ai rencontrée à mes tout débuts parce que je partageais son bureau, en fait. Je louais son cabinet. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Farida. Et quand j'ai quitté le cabinet parce que je voulais davantage de jours, je lui ai dit « Farida, je m'en vais, mais je veux absolument pas qu'on perde le lien qu'on a toutes les deux, parce que c'est quelqu'un vraiment que j'admirais. Parce que voilà, les échanges qu'on avait étaient très riches. C'est vraiment une rencontre de femme à femme aussi. » D'où le nom de notre duo qui s'appelle « Deux femmes à femmes ». Donc « deux », le chiffre « deux », « femmes » pour nous deux. « A », « femme », en majuscule avec un « S » pour toutes les femmes. Et en fait, on a formé ce duo toutes les deux pour traiter des problématiques du féminin. en alliant justement la médecine occidentale et la médecine traditionnelle chinoise. Donc elle donne des informations sur le fonctionnement du corps de la femme, la sexologie, etc. Et moi, je fais le pendant en médecine traditionnelle chinoise. Donc ce sont des ateliers sur, voilà, le premier qu'on a créé, qui a du succès, c'est « Désir et plaisir au féminin ». Qu'est-ce que le désir? Qu'est-ce que le plaisir? Comment retrouver le plaisir, etc.
Je comprends que cet atelier ait beaucoup de succès. Hein.
Voilà, après c'est souvent une surprise aussi pour les femmes qui viennent, parce qu'on s'imagine, on a une image de ce que ça peut être, et des fois c'est assez différent. Avec Farida, on est vraiment très différentes et très complémentaires. Donc on n'a pas le même âge, on n'a pas la même culture, etc., d'où on vient. Mais on a cette curiosité, ce respect vraiment profond l'une envers l'autre. Et aussi cette folie, petite graine de folie. Parce que des fois, je pense à quelque chose quand on est dans la création d'atelier. Et puis je me dis, on va faire ça. Et puis je dis, bon, je propose à Farida. Et je propose à Farida, elle me dit, mais oui, mais c'est génial. Et puis en plus, on va faire ça, elle va encore plus loin. Ou inversement, donc on s'amuse vraiment énormément toutes les deux. On avait laissé un peu en stand-by là nos ateliers parce qu'on était toutes les deux en recherche de cabinet. Là, ça y est, on est posé maintenant, donc on va reprendre les ateliers toutes les deux. Et c'est encore voilà, un grand bonheur d'échanger, on s'amuse beaucoup. On travaille sur le corps, sur le déplacement, on va travailler vraiment dans l'intimité, par le dessin, on va utiliser plusieurs techniques. Voilà, donc très, très sympa, très enrichissant et souvent bah oui. De belles rencontres, de touchantes rencontres.
Ça doit être très motivant avec tous ces projets comme ça qui vous viennent à profusion. Et ouais, en tout cas, vous dégagez une superbe énergie. Alors, toutes ces informations, on peut les retrouver sur votre site, Audrey. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse du site?
Oui, alors vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon site internet qui est audreylebrasseur.fr. Donc c'est pas www.audreylebrasseur.fr.
Alors le brasseur,
LEBRA2SEUR, comme ça D'accord. Se prononce. Donc là, vous allez trouver un peu sur ma présentation, mes pratiques. Si vous voulez avoir connaissance de mes événements et ateliers, je renvoie maintenant à ma page Facebook, sur lesquels ils sont tous publiés, parce que ça change tellement que honnêtement, je prends pas le temps tout le temps de mettre mon site à jour. Donc vraiment, je renvoie sur la page de Facebook, sur Instagram aussi. Donc je publie tout en fait, ce qui se fait au cabinet, ce qui se fait voilà, ailleurs. Et après pour me contacter, mon téléphone...
Oui, bah on peut le donner. Hein.
Voilà, donc c'est le 07 67 33 98 69. Et vous me retrouvez au centre médical Bizet à Cugnot, 3 places Georges Bizet. Voilà, et pour la prise de rendez-vous, c'est possible aussi par le site Doctolib, où il y a la prise de rendez-vous en ligne, donc qui est plutôt pratique. Parce que là, vous pouvez prendre rendez-vous quand vous le voulez, n'importe quand. Mais voilà, je dis toujours aux gens, n'hésitez pas à me contacter, parce qu'il y a souvent des questions où on aime bien, quand on va voir quelqu'un, avoir déjà aussi un premier contact par téléphone. Donc je me rends toujours disponible quand j'ai cette demande-là pour pouvoir échanger en vue après d'une consultation.
Super. Eh bien, l'émission va toucher à sa fin et moi, j'aimerais un peu... Voilà, je donne toujours la parole à mon invité pour dire un petit mot de la fin ou un petit conseil à donner à nos auditeurs avant de se quitter.
Déjà, merci de m'avoir invité.
C'est moi qui vous remercie, Audrey.
Merci à toutes les personnes qui me font confiance, qui viennent me voir. Merci à mes proches de m'avoir soutenue depuis le début et de m'avoir supportée. Et merci à toutes les personnes avec qui je travaille, voilà, parce que c'est une grande richesse pour moi, autant professionnelle que personnelle. Et puis merci la vie pour toutes ces rencontres.
Eh ben, en tout cas, je vous souhaite une excellente suite, continuation, beaucoup de rencontres et puis bien sûr aux personnes qui vont vous consulter. Voilà, plein de bonnes choses avec la médecine chinoise et le Feng Shui avec Audrey. Merci beaucoup Audrey, c'était Énergie donc Violette avec Adeline Coursan, à la technique Tiffaine Lemaine. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Et je vous dis namasté à vous les amis, prenez soin de vous surtout. Bye bye.